Bonjour, je vais donc vous parler des reliefs de Banquet trouvés dans le Cosiddetto Sanctuaire de Cybèle de Lyon. Pour faire avancer, ça ne marche pas avec les flèches là. D'accord. Bon, petit rappel sur la localisation de ce bâtiment public au-dessus du théâtre, dans le parc archéologique de Fourvière. Peut-être qu'avec le micro plus près, ça irait mieux. Vous rappelez également les circonstances de l'hypothèse d'un sanctuaire de Cybèle, à savoir la découverte en 1704 sur probablement l'emplacement de ce temple, entre guillemets, mais ce n'est pas certain, du fameux hôtel Taurobolique qui commémore un sacrifice à la déesse mère pour le salut de l'empereur Antonin. De fait, cet hôtel insigne, qui a donné lieu immédiatement à trois publications dans les 3 mois qui ont suivi, a été visible en effet dans la maison d'un certain... Il manque une maison que l'on voit au centre du propriétaire de cet hôtel. Et cela a même figuré sur le plan de Lyon, le plan de la Monce, dans la première édition et 1740, figure la maison de M. Bourgeat, où est visible l'hôtel Taurobolique. Simplement, en faisant une recherche sur les cadastres anciens, on s'aperçoit, enfin, d'après le texte, que l'hôtel aurait été trouvé dans une vigne, et de fait, M. Bourgeat possédait en effet une maison au-dessus de l'Odéon, qui est d'ailleurs figurée sur ce plan de la fin du XVIIIe, mais possédait également une vigne en bas sur la photo. Donc on n'est pas du tout certain de la découverte, du lieu de découverte de cet hôtel. Il est probable pour moi qu'il a été trouvé dans les vignes et ramené dans la maison du propriétaire où les érudits sont venus le voir. Mais on s'est appuyé là-dessus donc pour identifier cet édifice que vous voyez maintenant, dont il est apparu à la partir de la reprise des fouilles, qu'il s'agit non pas d'un bâtiment construit à la fin du second siècle, puisqu'on datait également l'édifice sur la base de la chronologie de l'hôtel, donc de la fin du second siècle, mais d'un édifice augustéen. D'où évidemment une difficulté à imaginer un temple de Cybèle à l'époque d'Auguste à Lyon. Enfin, fin Auguste quand même. Alors là, je vais vous parler d'un certain nombre de fosses qui ont été mises en évidence ces dernières années, fosses qui sont figurées par ces points rouges, qui sont presque toutes situées dans la moitié sud de l'édifice, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en ait pas existé sur la face septentrionale. Alors, il s'agit de fosses creusées contre les fondations et qui descendent d'ailleurs jusqu'à la base des fondations. Des fosses qui ont livré un matériel très riche sur celle que l'on voit là, qui est une des plus à l'est. Il a même été déposé d'ailleurs un petit squelette de chien avec ce vase. Et on voit très bien que les fosses descendent chaque fois à la base des fondations. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on n'a pas la partie supérieure de ces fosses, c'est-à-dire leur bouchage, puisque les fouilles ont été reprises à partir du niveau qu'avaient laissé nos prédécesseurs. Et certaines de ces fouilles avaient été partiellement, de ces fosses, pardon, avaient été partiellement éventrées par les terrassements d'Amablodin sans que le matériel ait été conservé. Donc, on n'a pas évidemment la totalité du matériel pour chacune de ces fosses, ni encore une fois quel était leur mode d'obturation, on l'ignore. Voici une autre fosse qui d'ailleurs est la plus riche, qui se trouve elle sur la façade ouest de l'édifice. Et là, on voit très bien que chaque fois, le creusement va même légèrement passer sous la fondation. On en reviendra sur... Alors, ce qui est certain, c'est que ces fosses ont été comblées avec un matériel très riche, qui est strictement contemporain pour toutes les fosses, qui représente plus de 1000 vases, avec beaucoup de formes complètes. Et... pour, dans certains cas, des collages d'ailleurs entre les fosses. Alors la céramique culinaire domine, bon, ce qui n'est pas une surprise, avec 558 vases. Je précise d'ailleurs que c'est un calcul de vases minimum qui est fait uniquement sur les formes complètes et les lèvres après collage sans aucune pondération. Donc un répertoire très varié avec également des marmites, des pots à cuire, des marmites tripodes, des pots carénés et également des bouilloires. On en voyait une là précédemment. On a une série de bouilloires dans ces fosses. C'est l'époque où on voit apparaître de manière assez significative les bouilloires dans les cuisines lyonnaises. Alors la Ciguë est également bien représentée avec plus de 200 vases. Là aussi très très homogène d'un point de vue typologique, avec beaucoup de production des ateliers de Lyon. Les gobelets à boire, les parois fines avec plus de 1000 tessons et 134 vases. Donc pour la Ciguë, quelques jolies pièces, mais également des amphores. Donc l'équivalent de 32 amphores, dont certaines, trois complètes, qui étaient d'ailleurs disposées dans une même fosse. Alors dans ces amphores, on a évidemment majorité d'amphores à vin, mais quelques amphores à sauce de poisson, et ces Dressel 22-23 qu'on considère maintenant, sur la base des découvertes récentes, comme destinées au transport de poissons, mais de gros morceaux de poissons, c'est-à-dire de poissons salés ou de poissons en saumure. Là encore, une amphore à vin oriental et une amphore à saumure d'Espagne. Les lampes sont également très abondantes. Plus de 1000 fragments de lampes avec beaucoup de lampes entières, ce qui évidemment n'est pas surprenant pour un banquet. Et également quelques jolies pièces en verre comme ce plateau. On verra qu'il y a encore d'autres objets associés dans ces fosses. Mais c'est bien évidemment la faune qui permet de voir qu'on a affaire à une consommation tout à fait extraordinaire, puisque, bon, même si le porc est encore très présent, on voit qu'on a on a 40% d'oiseaux, ce qui évidemment était tout à fait exceptionnel dans la consommation courante, avec une très grande variété d'espèces, puisque, bon, il y a évidemment à côté des poules, des perdrix, plusieurs variétés de canards, d'oies, du pigeon, du passereau. L'archéozoologue pensait même avoir identifié un os de grand tétras. Bon, des choses quand même pas très courantes. Et vous voyez encore beaucoup d'ossements d'oiseaux qui restent à déterminer. Alors, ça représente d'ailleurs qu'une partie de la faune. Malheureusement, on n'a pas pu étudier la totalité de la faune, qui est des milliers de fragments et beaucoup, beaucoup de petits ossements, puisque évidemment, les ossements d'oiseaux sont toujours nettement plus petits. Il faut aussi noter une quantité de poissons. Alors, le problème, c'est que là, c'est. Parmi lesquels essentiellement des poissons de mer, mais aussi des poissons de. Donc je ne sais pas si vous avez à lire, il y a du saumon de l'Atlantique, du maquereau, muge, moulet, de la plie. Également, il a été trouvé du. Alors bon, un des poissons les plus réputés, dont le nom m'échappe, je ne comprends pas qu'il ne soit pas d'ailleurs dans la liste. Beaucoup également de coquillages. Des huîtres de la Méditerranée. Là, l'espèce a pu être identifiée. Bon, alors, il y a quelques petits exemples, évidemment, qui eux, de murex, mais là, ils sont anecdotiques. Donc, une consommation dont on peut penser d'ailleurs qu'elle aurait plutôt eu lieu l'hiver, vu la quantité. Alors, beaucoup de discussions pour savoir comment ce poisson est arrivé là. Les morceaux de carrelet, voilà, c'est le tiens que je cherchais, j'ai trouvé du carrelet qui était très gros, non pas du carrelet, mince. Un poisson plat mais qui est, non pas sole, beaucoup plus gros, non pas la raie, non, c'est beaucoup plus gros, ah, bon, tant pis, ça me reviendra peut-être dans du turbot, voilà. Donc, est un des poissons les plus réputés des gourmets antiques. Et on a des gros morceaux d'arêtes en connexion, d'où l'idée qu'il avait même été transporté. Enfin, l'archéozoologue avait imaginé la possibilité de poissons frais arrivés de Méditerranée par des bateaux viviers ou des choses comme ça. Parce que la marée, moi j'y crois quand même pas trop, les charrettes remontent dans le Rhône pour livrer du poisson frais. Et une possibilité, c'est que ça a été quand même de la grosse conserve dans ces amphores à très large embouchure. Bon, donc là, mais enfin évidemment, sur l'étude des ossements, c'est difficile d'identifier la préparation et le mode de transport. Donc une faune extrêmement riche, encore une fois, avec laquelle on trouve d'ailleurs des parallèles, notamment pour les consommations d'oiseaux dans un certain nombre de temples, que ce soit le temple à Isis ou d'autres, qui nous orientent en effet vers un banquet cultuel important. Alors, ces fosses contenaient aussi quelques monnaies, qui complètent la datation, qui est en effet extrêmement resserrée. Des monnaies à l'hôtel de Lyon, monnaie d'Auguste, bon, on est dans les années entre 10 et 15 après Jésus-Christ, mais aussi quelques objets comme ce petit crabe en bronze, cette boîte à sceaux avec un portrait et une signature, ce qui est tout à fait exceptionnel, et pour lequel aussi on a des parallèles, notamment dans les restes du désastre de Varus. Donc on a vraiment là aussi un bon élément de comparaison. Et alors aussi quelque chose qu'il faut peut-être intégrer dans l'interprétation, plusieurs éléments de clochettes en argile, qui sont des cucullati. Et voilà, avec ça, il faut essayer d'interpréter ce qu'ont été ces banquets. Dans la mesure où ils sont, visiblement, toutes les fosses sont contemporaines, ce n'est pas une succession de banquets, mais ce serait un très gros banquet, qu'on pourrait plutôt du coup imaginer comme le banquet de consécration de l'édifice, mais reste à comprendre quel était cet édifice, et là malheureusement, c'est peut-être justement en résonnant avec tous ces éléments. Il faut aussi savoir que dans ces fosses sont associés beaucoup de rejets d'artisanat. Là aussi, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça fait partie du dépôt? Est-ce que le fait qu'on ait creusé des fosses pour enfouir ces vestiges en allant jusqu'à la base des fondations, c'est justement pour, je crois, y compris faire des libations sur la base des fondations, je ne sais pas. Là, on manque, il faudrait évidemment avoir des parallèles. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches de ce côté-là, mais le peu que j'ai fait, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des parallèles à des dépôts de ce type. Il reste qu'on a donc plus de 1000 vases qui ont été brisés et jetés dans ces fosses. Il est difficile d'y voir évidemment des bris accidentels, ou alors ça veut dire qu'on a manipulé dans ces banquets une dizaine de milliers de vases, ou qu'on était vraiment très très maladroit. Donc je pense que c'est bien des bris volontaires liés à ce banquet. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, et il faudrait évidemment reprendre ce dossier, notamment j'aimerais bien qu'on finisse l'étude de toute la faune, extrêmement riche, et là aussi peut nous donner quand même un certain nombre d'indications. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez.
On va peut-être ensuite voir quelques questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions, des remarques sur l'intervention d'Armand Debord?
Monsieur Elie.
Simplement, Armand, j'aurais voulu que tu nous rappelles ton dernière interprétation par rapport au monument, parce que tu nous l'as pas dit là.
Mais il n'y a pas une interprétation par rapport au monument, justement, il y en a plusieurs. Bon, sachant que le plan est atypique, on est beaucoup plus bas que les sols, on est simplement dans les fondations, déjà il faudrait savoir ce qu'il pouvait y avoir au niveau du sol qui n'apparaît pas forcément en fondation. Donc une cour à galerie, semble-t-il, dans laquelle en plus est venue s'installer après pourquoi ça marche un coup sur deux, la citerne de l'aqueduc d'Hugier, ce qui là aussi prête à discussion. Enfin, que vient faire cette citerne à l'intérieur de cet édifice? Dans l'hypothèse d'Audin, elle était antérieure, mais là ce n'est pas le cas. On voit très bien qu'elle vient au contraire s'inscrire à l'intérieur des murs de fondation de ce grand bâtiment. Et alors, on a le choix entre des tas de choses, hein. Est-ce que c'est un très grand Bachelum. Est-ce que justement, à partir des déchets dans ces fosses, est-ce que le fait qu'il y ait tous ces déchets d'artisanat, si je résume enfin les types d'artisanat qui sont représentés, on a le travail de l'os, mais le travail de l'ivoire, du plomb, du bronze et du fer. Bon. Est-ce que c'est plusieurs artisanats ou est-ce que c'est un artisanat qui associe tous ces matériaux, le type d'artisanat qui associe tous ces matériaux, c'est en particulier l'armement. Bon. Alors, voilà, on peut s'amuser après ça à dire, ah bah oui, c'était une fabrica, on peut trouver des parallèles avec la caserne des vigiles à Ostie et trouver que voilà, c'était la caserne des vigiles de Lyon. Bon, mais tant qu'on n'a aucune inscription et qu'on n'a pas de... On peut faire des hypothèses avec l'hôtel Torobolique ou sans l'hôtel Torobolique. Enfin, l'hôtel Torobolique, il y a des hôtels Torobolique justement dans la caserne des vigiles à Ostie. Bon, voilà, on a le choix entre beaucoup d'hypothèses. Si on creuse du côté des Cuculati, c'est quoi? C'est le genius Cuculatus parèdre d'Esculape, ou bien c'est le voyageur, si c'est le dieu de la guérison et de la... On peut à ce moment-là imaginer qu'on a l'hôpital de Lyon, vous voyez, qu'on a un peu le choix. Donc c'est difficile justement d'arriver à une hypothèse à partir des éléments qu'on possède. Les scolas qu'on a très très bien identifiés, c'est celles où évidemment on a des inscriptions, des statues, ça aide quand même. Il n'y en a pas de pareil finalement des scolas. Alors c'est vrai, ce qui aurait été très joli, c'est à peu près contemporain du sanctuaire du Vermacarné, d'imaginer que ça a été par exemple la scola des Sévir Augusto. Hein. Et c'est vrai qu'à Lyon elle devait quand même être très grande, et à ce moment-là, l'hôtel Torobolique, qui est, comme la plupart, érigé par un Sévir Augustal, aurait tout à fait sa place dans ce bâtiment. Enfin, là aussi, c'est pas... on a d'autres arguments pour dire qu'il n'y a pas eu de... qu'elle n'était pas là.
Sabine, j'aurais une question sur le rapport entre les vases, les récipients et les ossements animaux. Est-ce qu'il y a aussi, parce que vous avez parlé de d'ossements en connexion, est-ce qu'il y a aussi des dépôts dans les vases? Non. Non. C'est vraiment des animaux qui ont été construits, mais ce n'est pas des dépôts de fondation.
Non. C'est vraiment du déchet d'alimentation qui a été... Le seul élément qui est en connexion, c'est ce cadavre de petit chien au sommet d'une des fosses.
Vous avez évoqué la question du bruit, qui me semble finalement assez central dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on, manifestement, on casse beaucoup après, et on casse, mais on casse probablement beaucoup pendant ou à la fin. Est-ce que justement, il n'y a pas un lien entre le bruit de céramique et la dynamique même du banquet, qui a des phases quand même assez... qui ressemble assez peu à un
point
de départ en retraite de la
meute. Oui, ça doit être peut-être moins sage.
Et qu'on casse massivement, ça fait pas aussi partie du...
Oui, mais encore une fois, casser 1000 vases par maladresse ou par ivresse, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en avait, à ce moment-là, il faut multiplier le nombre de vases. Si on imagine qu'on a cassé tout ce qui a servi, ça fait quand même déjà un joli banquet qui a nécessité... des centaines de vases pour préparer les aliments. Quoi. On a quand même 500 vases à cuire. Ça fait quand même une jolie... Alors il faudrait maintenant justement essayer de calculer le volume, aussi tout le volume de viande, mais pour ça il faudrait alors calculer le volume de viande. Quand vous avez une oie, un pinson, un saumon et un machin, ça devient aussi un travail qui va être un peu long. Mais...
Justement, ma question était, est-ce que donc, tous les aliments que vous avez cités étaient...
Ont
été consommés.
Oui.
Ils passeront aussi.
Alors bon, pour certains petits oiseaux, c'est moins évident à démontrer. Quoi.
Parce que dans les autres sanctuaires, comme les sanctuaires d'Isis, à Mayence ou ailleurs,
les passereaux
ont
été retrouvés
après grande quantité. Je
ne
me rappelle plus,
ils
ont été consommés.
Je ne sais pas. Faudrait voir la...
C'est-à-dire quand on a déjà mangé des. Oiseaux de cette taille-là, en général, on sait qu'on n'en fait qu'une bouchée et il n'en reste plus grand-chose. Donc, c'est quand même des. Les passereaux sont très consommés dans certains pays, en particulier au Liban. c'est vrai que c'est très petit. Quand ils sont cuits, en fait, ils peuvent se manger presque en entier. On craque les os sous la dent.
Oui, c'est individuel, mais enfin le...
Le fait de trouver des ossements en grande quantité de petits passereaux, c'est assez étonnant.
Bon, alors, il faudrait revoir les chiffres, parce que là, il n'y a pas les chiffres, malheureusement. Enfin, si, il y a des chiffres, mais c'est un exemple.
Justement, ça correspondrait à peu près quelle quantité de l'ensemble
Oh ben les petits oiseaux, ça représente par rapport aux oies et aux poules, poulets, le reste, ça représente pas grand chose.
Mais ce qui a été étudié, ça représente par exemple un tiers de l'assemblage total.
Oui. Moins de la moitié.
Moins de la moitié.
À mon sens, un bon tiers.
Parce que je trouvais que finalement, il n'y avait pas beaucoup de restes de poissons par rapport à la présence des amphores.
Non, il n'y a pas énormément de poissons. Et bon, là, c'est vrai, il manque les volumes, mais encore une fois, ce sera plus facile quand tout aura été étudié.
Ils viennent de différentes origines, mais on aurait pu s'attendre avec les amphores à
Garum, oui.
Enfin, à sauce. Préparation qui en herbe plus. Bon, ça, c'est la réflexion que je me suis faite.
Oui, bon, cela dit, il faut voir aussi quel type de préparation il y a dedans. Bon, si c'est des filets, évidemment, il n'y aura pas beaucoup d'arêtes. Là, on ne sait jamais trop bien dans ce que contenaient souvent ces sauces de poisson. Enfin, si on a quand même des belles séries d'inscriptions, mais enfin là, ce n'est pas le cas.
Alors, j'aurais une autre question avant de passer la parole à quelqu'un, à une autre personne. Le nombre assez important de lampes à huile.
Oui.
Je ne me souviens pas combien est-ce que vous en aviez, mais il y en a un certain nombre.
Oui, il y a plus de 1000 fragments. Alors c'est vrai que...
Est-ce que vous pensez que ça peut être une attestation que ces festivités se passaient plutôt le soir?
Oh, je pense. Maintenant, la Cena, enfin, le banquet, il a lieu le soir. Non, d'après les textes, je me trompe. Non, c'est vrai que là, pour le coup, le bruit des lampes, on imagine bien qu'en fin de soirée, parce que toutes ces lampes sont cassées au niveau du bec. Bon, donc il suffit d'un choc sur la pointe de la lampe, c'est quelque chose de fragile, et évidemment, ça ne fonctionne plus. Là, ça, on n'a peut-être pas voulu briser des lampes dans le... Alors là aussi, il y a beaucoup de représentations de jeu. Est-ce que ça a un sens ou pas? Bon, pas forcément.
Juste une petite observation, Armand, tu parlais d'éventuellement d'une consécration, etc. Est-ce que tu ne crois pas que dans ces cas-là, on aurait prévu ces fosses et pourquoi on les a manifestement recreusées le long des fondations, etc. Non?
Non, là je pense pas.
Si on donnait la peine de recreuser, etc. Alors si c'est une cérémonie, on la prévoit, donc du coup on peut faire des réserves avec des planches.
Bah, donc les maçons qui font les murs en tranchées ont autre chose à faire que de se...
dans le langage actuel, je ne sais pas, moi, c'est une idée qui...
Non, ça ne me paraît pas contraire très logique d'avoir imaginé qu'on va demander aux constructeurs de laisser des fosses comme ça aménagées. Alors une des questions était de savoir si on n'a pas réutilisé, bon, au départ, on rentre dans d'autres questions que le banquet, là, c'est par rapport au bâtiment, mais il semblerait qu'on ait rajouté des renforts lorsqu'on a installé la citerne, et on pouvait se demander si au départ certaines de ces fosses n'ont pas été destinées à voir l'état des fondations, puisqu'on a rajouté des contreforts couchés, dans le bâtiment, probablement au moment où on installe la citerne, qui évidemment a créé une poussée énorme sur les fondations. Et c'est vrai que toutes ces fosses sont du côté du bâtiment qui est en remblai, et apparemment celui où les fondations sont sur le terrain solide, il n'y a pas de ces fosses. Mais là, ça, encore une fois, on sort un peu de la problématique du banquet. Enfin, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte pour interpréter tout ça. Si vous n'avez...
Merci beaucoup. J'ai l'impression que pour le moment, il n'y a plus de questions ou de remarques. Donc on va passer à
à l'intervention suivante, celle de Sabine Fourier, va nous parler de Chypre.